En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Regard sur l'homme contemporain est le titre d'une série de trois colloques où juristes, scientifiques, historiens, philosophes et théologiens cherchent à mieux comprendre les comportements humains, les émotions, les sentiments qui se retrouvent à la jonction de toutes ces disciplines. Le premier colloque, que vous retrouverez en deux parties sur le site de Canal Académie, portait sur les conséquences des avancées récentes de la biologie qui nous permettent aujourd'hui de mieux comprendre certains traits de notre individualité. Dans ce deuxième colloque, retransmis cette fois-ci en trois parties, toujours sur le site de Canal Académie, les intervenants s'intéressent à l'impact de la spiritualité et de la morale dans les comportements humains. Dans ce premier volet, retrouvez dans quelques instants François Gros, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences, et Bérénice Tournafond, organisatrice du colloque. Ils esquissent tous les deux les enjeux de cette nouvelle réflexion. Puis le père Bernard Sesboué, professeur de théologie, abordera l'impact de la décision spirituelle sur le comportement humain. Il laissera la place à Michael de Saint-Chéron dans un second temps. Michael de Saint-Chéron est philosophe, chercheur en littérature de la modernité à Paris 3 CNRS. Il évoquera l'homme du XXIe siècle face à la spiritualité désorientée. On retrouve tout de suite François Gros et Bérénice Tournafond.
Alors le thème d'aujourd'hui, vous le savez, est lié aux réflexions sur les influences de la morale, de la spiritualité et de la conscience collective. C'est un débat qui représente en réalité une des étapes d'un cycle de trois conférences, la première ayant eu lieu en juin de 2010, ayant plutôt essayé de porter l'éclairage sur ce que les sciences, surtout les sciences de la vie et de la santé, peuvent nous donner comme interprétation sur le comportement de l'homme d'aujourd'hui. En effet, on sait qu'aujourd'hui, la génétique, les neurosciences, l'immunologie, bien entendu, les sciences cognitives, peuvent expliquer déjà certains points de base, si je puis dire, du comportement, justement, en particulier, les relations de l'homme avec son environnement, qu'il soit d'ailleurs social. Pensez par exemple à des maladies ou des pathologies qui affectent justement ce type de relation, même chez l'enfant, ou qu'elles soient d'ailleurs de caractère plus général, comme chacun sait, au plan des écosystèmes. Le colloque d'aujourd'hui va donc porter sur morale, politique et science, droit, bioéthique, etc. Spiritualité, bien sûr, et nous commencerons d'ailleurs par là. Je donne donc la parole avec beaucoup d'enthousiasme à Madame Tournafond, et je voudrais dire d'entrée de jeu, je voudrais la remercier tout particulièrement en notre nom à tous pour ces initiatives courageuses, désintéressées, qui sont si appropriées et si utiles justement dans le contexte actuel et qui nous permettent d'essayer de mieux comprendre les relations de l'homme à son époque.
Mesdames, Messieurs, la compréhension des sentiments, des émotions et des réactions humaines, telles que l'amour, la bienveillance ou la tolérance, ou à l'opposé la haine et la violence, a de tout temps constitué un sujet d'étude dans tous les domaines, qu'il s'agisse des sciences de la vie, de la médecine, des sciences humaines, du droit et bien d'autres disciplines encore. Et d'ailleurs, tout au long de ce colloque, nous étudierons par exemple la tolérance à travers la philosophie, la sociologie, la théologie, le droit, les neurosciences. Et pourtant, nos émotions et nos comportements, qui sont bien souvent à l'origine du meilleur comme du pire de ce dont nous sommes capables, sont encore très mal connus. Et alors même que nous savons qu'ils influencent notre équilibre biologique, qu'ils modifient notre vision du monde et de l'autre, et les relations que nous entretenons. Et d'ailleurs, chaque spécialiste dans sa démarche est conscient que la compréhension de l'être humain, sa pensée, son individualité, sa représentation du monde et de l'autre, son aspiration à la morale, en bref, tout ce qui contribue à la singularité humaine, nécessite une multitude de voies d'approche. Et grâce à ces différentes études dans tous les domaines qui nous concernent, nous pouvons mieux comprendre les mécanismes qui nous animent. Cependant, pour étudier la complexité de ces mécanismes, Il est nécessaire de diviser tous ces domaines d'études pour serrer les problèmes à résoudre et ne faire varier qu'un paramètre à la fois. C'est le fait même de la pensée analytique comme de la méthode expérimentale. C'est ainsi que l'on étudie la neurologie indépendamment de la cardiologie, la philosophie indépendamment du droit, de la psychologie, etc. Alors que pour étudier les émotions et les comportements, qui sont justement à la frontière de toutes ces disciplines, et plus généralement pour envisager l'homme contemporain à travers la science, la morale et la politique, il est également nécessaire d'avoir une approche globale, une vision multidisciplinaire. L'objectif de ce cycle de colloques sur l'homme contemporain est donc de faire appel à la participation et à l'expérience de représentants appartenant à des disciplines ou relevant de domaines très divers pour faire le point sur ces connaissances spécifiques, mais également pour les replacer dans une vision et une dimension aussi large et multidisciplinaire que possible. Car au-delà de ces connaissances spécifiques qui sont primordiales, seule une vision globale permet de mieux appréhender les interactions entre ces différentes spécialités et ainsi mieux comprendre la façon dont nous fonctionnons. C'est d'ailleurs ce qui ressort clairement des dernières découvertes en biologie, qui mettent dans tous les domaines d'études sur le corps humain de plus en plus en évidence les liens entre le corps, l'esprit et l'environnement extérieur. Nous en avons évoqué certains lors de notre premier colloque qui s'est tenu ici même le 7 juin dernier. Donc à cette occasion, nous avons fait état des découvertes récentes en génomique, en immunologie et en neurosciences, découvertes qui révèlent les liens entre les émotions, les comportements humains et la constitution et le fonctionnement du corps humain. Le professeur François Gros nous a parlé de ce qui était à la source même de notre constitution physique, l'information génétique. Information génétique qui va déterminer un certain nombre de caractéristiques psychologiques et comportementales de notre être, caractéristiques qui peuvent ou non s'exprimer d'ailleurs selon le milieu dans lequel nous sommes amenés à évoluer et qui contribuent à fonder notre individualité. Ensuite, le docteur Edgardo Carosella nous a permis de mieux connaître les réactions de rejet ou d'acceptation par l'organisme de corps étrangers. Et il nous a expliqué comment, au travers de ses connaissances nouvelles en immunologie, il nous est possible d'avoir une idée plus précise de notre identité, de ce qui fait partie de nous et de ce qui nous est extérieur. Enfin, le professeur Olivier Houdet nous a montré comment notre structure intellectuelle, nos pensées, se construisent dans le cadre de l'interaction entre nous et notre environnement, entre notre organisme et le milieu environnant, et comment la constitution et l'équilibre interne de l'être sont intimement liés aux relations que nous entretenons avec notre environnement et à la façon dont nous le percevons. Mais à l'occasion de ce premier colloque, nous nous sommes essentiellement attachés à faire état des connaissances actuelles sur le corps humain, sur la matière même qui nous compose et qui nous environne. Or, nous ne sommes pas que la somme des composantes du monde matériel dans lequel nous évoluons. Et heureusement d'ailleurs, car sinon nous serions condamnés à vivre dans un monde mécanisé et matérialiste. Nous sommes également le fruit des interactions entre ces différentes composantes. Interactions qui opèrent sur un plan matériel, mais qui n'en sont pas moins incorporelles. Et c'est cette notion même d'incorporalité qui nous conduit donc à envisager plus spécifiquement, dans ce deuxième colloque, l'influence de la spiritualité, de la morale et de la conscience collective sur les comportements humains. Nous allons voir précisément que la spiritualité, considérée comme opposée à la matière qui nous constitue, lui est en réalité complémentaire, puisqu'elle l'influence, la modifie et parfois même la maîtrise. Les professeurs Bernard Cesboué et Michael de Saint-Chéron traiteront de cette question dans la première partie de ce colloque. Le professeur Dominique Volton évoquera en même temps la question de la communication entre les hommes qui est à la base de la relation et des interactions sociales. Dans une seconde partie, nous aborderons plus particulièrement les liens qu'entretiennent la morale, c'est-à-dire l'ensemble des règles individuelles ou collectives qui définissent le bien et le mal, et la science. La morale étant là aussi un concept par définition incorporel, mais qui détermine la plupart de nos pensées, de nos croyances et de nos comportements, tant sur le plan individuel que social. Un des premiers épisodes de la Genèse est celui du péché originel, tentation et tentative de l'homme de s'approprier la connaissance du bien et du mal. Peut-être faut-il y voir un appel à l'humilité devant l'étroitesse et l'imperfection des visions humaines dans ce domaine. Le professeur Jean-Robert Armogat interviendra à ce sujet sur le thème « Morale et science, agir et connaître ». Il est souvent difficile de savoir ce qui est le bien ou le mal Et pourtant, nous devons élaborer et respecter des règles reconnues par tous et qui permettent de préserver les droits fondamentaux. C'est d'ailleurs là que le droit a une importance capitale. Le professeur Gérard Teboul nous parlera à ce sujet de la règle de droit international, de la morale et de la biomédecine. Enfin, le professeur Alain Berthaus traitera de la question de l'incidence de l'empathie et de la tolérance, dont il est désormais clairement reconnu qu'elles sont nécessaires à notre équilibre physique et psychique. Nous organiserons donc, certainement en juin prochain, mais la date n'est pas encore définitivement fixée, un troisième colloque au cours duquel nous réfléchirons à l'influence de la politique sur l'homme contemporain. Nous parlerons des relations entre l'individu et la société, car les politiques menées ont une forte incidence sur notre état d'esprit, nos émotions et nos comportements, et réciproquement d'ailleurs. Certaines études faites par des neuroscientifiques révèlent même que les émotions sont bien souvent la seule raison aux choix politiques. Mais aussi, c'est dans le domaine politique que les conceptions morales s'affrontent avec le plus de violence, et les guerres en sont bien souvent l'illustration. Et enfin, parce que la politique est à la source du pouvoir, et par conséquent du système de droit. Or, le droit régit les relations sociales, tant publiques que privées, et incite à des comportements plus ou moins adaptés à la société comme aux individus. À ce sujet, le professeur Laurent de Gauss nous a déjà parlé, à l'occasion du premier colloque, des liens entre la science et la politique de santé et des difficultés qu'il y a en pratique à les faire coexister le mieux possible. Ne serait-ce que parce que les liens entre la science, la morale et la politique sont pour l'essentiel matérialisés par le droit dans un idéal de justice. Et comme nous le savons tous, l'idéal n'est pas de ce monde. Alors quelle est la finalité de ce colloque, me direz-vous ? Elle est de tenter de mettre en lumière le rôle bénéfique des comportements vertueux. Véritable défi en cette époque de relativisme absolu, de pessimisme et de méfiance généralisée. Mais c'est un beau défi que nous avons tout de même voulu relever. Merci. Je vais donc tout de suite passer la parole au père Bernard Cesboué pour son intervention sur l'impact de la décision spirituelle sur le comportement humain.
Merci beaucoup, madame, de me donner la parole. La première chose que je voudrais noter dans la question qui m'est proposée, c'est le mouvement même de la question, et qui est retenu pour la deuxième partie de ce colloque, et que j'entends pour ma part presque pour la première fois. Réflexion sur les influences de la morale, de la spiritualité et de la conscience collective sur l'homme contemporain. La question classique à laquelle on se heurtait depuis près de deux siècles allait dans le sens inverse. Elle était ainsi thématisée par Jean-François Catalan dans le Dictionnaire de spiritualité. La vie spirituelle dépend-elle du psychisme ? Est-ce que les multiples conditionnements auxquels une existence humaine est soumise ne suffisent pas à rendre compte de certains phénomènes dits spirituels ? Aujourd'hui, on dira même, est-ce que l'activité cérébrale ne peut pas rendre compte de l'activité psychique elle-même. Le renversement ici proposé de la question me paraît un heureux signe des temps. Quelle influence peut avoir sur le comportement humain une vie spirituelle authentique et en particulier la décision spirituelle ? L'esprit semble avoir la capacité de rétablir l'équilibre physique et psychique de l'être, disait en juin dernier Madame Bérénice Tournafond. En d'autres termes, est-ce que l'usage spirituel de la liberté de la personne peut avoir un impact sur son comportement, voire sur sa biologie, en tant que celle-ci est spécifiquement humaine ? Réalité difficile à définir sans doute, qui habite tout homme mieux qui fait partie de son être même. Deuxième point. Une seconde chose à relever est la difficulté du propos auquel vous m'invitez et qui porte sur une question dont un versant est proprement scientifique et l'autre échappe complètement au créneau de pertinence de la recherche scientifique. D'un côté, il y a des processus scientifiquement analysables où un nombre immense de mécanismes toujours à inventorier, De l'autre, il n'y a rien de mesurable. Il n'y a pas de mécanisme. Mieux ou pire, l'existence même du facteur de liberté est objet d'option entre les hommes, reconnu par les uns, nié par les autres. Ici, il faut mettre en œuvre le vieux critère théologique qui affirme le « sans confusion et sans séparation ». Je suis spontanément à l'aise avec les anthropologies qui voient d'abord et avant tout l'unité de l'homme, animal spécifique, qui n'a pas un corps, mais qui est son propre corps. D'ailleurs, la définition classique de l'homme commence toujours par animal, animal rationnel, animal social, etc. Mais le propre du corps de l'animal humain est d'être parole. Il est un corps parlant, c'est-à-dire orienté à la communication intellectuelle et affective avec autrui, comme avec soi-même, par toutes les formes de langage. Cet animal humain est le lieu d'une expérience de transcendance. Il est celui qui pose toutes les questions, et en particulier la question de la question. Pourquoi suis-je là? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? C'est pourquoi sans fin exprime la question du sens. Et en définitive, l'homme est l'animal qui pose la question de Dieu. Non seulement il est habité consciemment par cette question, mais encore il habite son inconscient, si l'on en croit le psychanalyste Viktor Frankl, qui reconnaissait en nous l'existence d'un inconscient spirituel et même divin, tout différent de celui de Freud. Ceci montre l'intrication indissoluble du spirituel et de l'organique. La liberté humaine ne se ramène jamais totalement à la série des facteurs antérieurs. Elle n'est ni mesurable, ni évaluable au plan de la quantité. Comment en traiter? En respectant l'originalité de ces deux versants, celui du comment et celui du pourquoi, et sans perdre de vue pour autant l'unité de la personne humaine. Parler d'influence suppose la reconnaissance d'une causalité. Mais cette causalité n'est pas du même ordre que la chaîne des causalités qui s'exerce dans notre espace-temps. Il s'agit d'une causalité proprement spirituelle, c'est-à-dire libre dans son origine comme dans sa réception, telle celle qui s'exerce d'un maître sur son disciple. Il convient donc d'aborder le problème avec le plus grand respect, car il s'agit de l'homme en tant qu'homme, et non de l'homme objet légitime de la biologie, de la médecine, de la sociologie, de la psychologie et de bien d'autres sciences. Nous sommes dans cette zone cruciale où sont à la fois à l'œuvre des réalités psychosomatiques et la manifestation d'une réalité spirituelle incommensurable. Troisième point. Si je veux éviter d'en rester à des considérations générales, il est nécessaire d'inscrire ma réflexion dans une tradition spirituelle. J'inscris la mienne dans la tradition chrétienne, plus précisément dans une des écoles de la tradition catholique, celle de la spiritualité ignatienne, parce que celle-ci s'est investie dans le discernement spirituel pratique de notre comportement, qui tire d'ailleurs ses lettres de noblesse de l'enseignement de saint Paul. Ignace de Loyola a développé dans ses exercices spirituels deux séries de règles pour le discernement des esprits, c'est-à-dire pour l'interprétation des mouvements intérieurs qui traversent notre conscience en fonction des événements qui nous arrivent et de la manière dont nous conduisons notre vie. Interpréter, c'est donner sens. Le discernement spirituel proposé par Ignace concerne d'abord la situation de l'homme pécheur qui essaie de cheminer vers Dieu et de se réconcilier avec lui, c'est-à-dire tout autant avec soi-même. Il part de l'expérience de la consolation et de la désolation. En termes modernes, de l'expérience du bonheur ou de la joie de vivre, et celle de la tristesse, du cafard, de la déprime. Nous connaissons tous ces alternances qui affectent la zone de notre affectivité, cette zone où le corporel et le spirituel sont inextricablement mêlés, cette zone qui n'est pas celle du rationnel pur. Nous traversons des saisons psychologiques et spirituelles. Il y a des jours où tout semble aller bien, où nous sommes spontanément heureux, des jours où notre attitude est comme spontanément tournée vers l'amour de Dieu et des autres. Il y a par contre des jours où tout va mal, où le ciel de notre âme est troublé, triste, sans espérance. Le passage de l'euphorie au cafard peut venir de causes proprement physiologiques. Elle peut venir aussi de causes humaines, un environnement, une mauvaise nouvelle, une contradiction amoureuse. Elle peut aussi avoir une cause spirituelle et personnelle, une relation que j'ai mal conduite, un acte que j'ai posé et que je me reproche gravement. Et parfois, un presque rien nous fait couler à pic. Ces expériences concrètes ont-elles un sens? Notre liberté a-t-elle un certain pouvoir sur elle? Il y a dans ces règles ignatiennes une visée morale, puisqu'il s'agit de discerner ce qui est bien et ce qui est mal, et parfois ce qui est mal sous l'apparence du bien. Et une visée spirituelle, une vision de foi, l'évaluation de ma relation à Dieu. Est-ce que ma liberté cherche à lui être docile, ou est-ce qu'elle s'oppose à lui? Ignace donne des conseils sur la manière de se comporter dans un cas comme dans l'autre, et sur les décisions qui pourront s'en suivre. En principe, la consolation vient de Dieu si je suis dans une phase qui m'approche de Dieu. La désolation vient du malin. Mais si je mène une vie qui m'éloigne de Dieu, c'est le contraire. La désolation vient de Dieu et la consolation du malin. En période de désolation, il nous dira de ne pas changer de décision, ni d'en prendre une, car la désolation est mauvaise conseillère, mais de nous changer nous-mêmes et de vivre dans la patience. Il donne des conseils sur la manière de se comporter dans la consolation comme dans la désolation. C'est une manière de faire intervenir ma liberté par rapport à ce qui se passe, et cette attitude est capable de changer notre situation. Le spirituel vient alors assainir notre psychisme. Le discernement spirituel, c'est-à-dire mené devant Dieu, et pour un chrétien à la lumière des enseignements du Christ dans l'Évangile, doit pouvoir nous conduire à une ou des décisions proprement spirituelles. Dans la décision, dans ce qu'il appelle l'élection, Ignace tient compte de l'élément affectif. Si ma décision est bien prise, elle doit me mettre dans la paix et la joie. Si quelque chose proteste en moi de manière durable contre la décision, il faut la réexaminer. Cet acte de liberté est aussi un acte de conformité à ce que je sais de la volonté de Dieu sur moi. Une décision spirituelle peut changer le cours d'une vie. Alors maintenant, je prends un exemple, et je vais prendre même trois exemples successifs. Je prends un exemple parlant, la décision de partir au Japon du jeune Pedro Arrupe, futur général de la Compagnie de Jésus. Pedro Arrupe est un jeune basque des années 1925, étudiant en médecine, que la fréquentation des marginaux à Madrid et un long pèlerinage à Lourdes pousse à entrer dans la Compagnie de Jésus en 1927. Deux ans après, il écrit à son père général pour demander de partir en mission au Japon. Rien ne l'orientait vers ce pays dont il ignorait tout. Et il reçoit d'abord une réponse succincte et dilatoire. « C'est un bon désir, mais suivez le cycle de votre formation, on verra plus tard. » Mais le jeune jésuite n'arrête pas de répéter sa demande et la réponse positive viendra 10 ans plus tard en 1938. Sur sa motivation profonde, voici ce qu'il écrit dans ses mémoires. Mon unique motivation missionnaire fut la volonté de Dieu. Je sentais qu'il m'appelait au Japon. Au cours de ma retraite annuelle de 8 jours en 1929, j'eus la claire vision que ma vocation était missionnaire et qu'elle me conduirait au Japon. Et ne me demandez pas ce que veut dire vision. Il s'agit d'une expérience intime qu'aucun mot ne peut décrire et qui ne se comprend que par son déploiement dans le temps. On peut chercher bien des raisons. L'image de François-Xavier au XVIe siècle, la tradition missionnaire de son ordre, le désir de propager la foi, etc. Pedro Arrupe dit autre chose. Une expérience de Dieu qui le pousse à une décision irrévocable qui ne le quittera plus jusqu'à sa réalisation. Toute sa vie sera habitée par cette motivation qui donnera à son existence un essor extraordinaire. Le conduira à Hiroshima, où l'ancien étudiant en médecine soignera les victimes de la bombe atomique en 1945, lui fera donner une impulsion exceptionnelle aux activités des jésuites au Japon. Il deviendra le responsable de cette province jusqu'à ce qu'il soit élu en 1965 général de la Compagnie de Jésus. Je fais ici un appel analogique à Maurice Blondel quand il parlait de l'acte de foi. Il est légitime, dit-il, de distinguer l'usage de la raison avant et l'usage de la raison après l'acte de foi. Ceci veut dire que l'attitude de l'esprit de celui qui est passé de la non-foi à la foi est profondément changée et lui fait apprécier tout ce qui concerne la foi de manière différente. Il n'a pas quitté l'ordre de la raison. Foi et raison forment un binôme indissoluble, mais il pèse les arguments de manière nouvelle. Je dirais analogiquement que celui qui a pris une décision capitale pour son existence n'est plus le même après qu'avant cette décision. Il a libéré en lui des forces nouvelles. Il est habité par une fécondité dans l'action qu'il ne connaissait pas auparavant. Il est devenu un autre homme. C'est une expérience que ne pourront jamais faire ceux qui hésitent à s'engager, et plus encore à s'engager pour toute leur vie. Un second exemple. Je connais actuellement une jeune femme atteinte d'un cancer suffisamment avancé pour qu'elle ne soit plus soumise qu'à des soins palliatifs. Elle est très fatiguée parce que sous morphine, elle souffre, mais elle est toujours debout et essaie de mener une vie de relations importantes. Il n'y a dans son attitude aucune révolte contre ce qui lui arrive. Elle a la foi. Et elle a intégré cette épreuve à son projet fondamental de vie, qui est de servir. Elle lui donne le sens du don d'elle-même. Elle vit dans une sérénité et une paix impressionnantes pour son entourage. Je ne sais pas si les médecins constatent une influence de son attitude dans l'évolution de la maladie, ni si l'on peut donner une preuve à son sujet, sans doute que non. Mais je ne peux m'empêcher de penser que sa décision spirituelle a un impact concret sur sa manière de vivre la maladie. Enfin, un tout dernier exemple, et je m'arrêterai là. Prenons enfin l'exemple de la culpabilité, domaine où le christianisme a été le grand accusé des temps modernes. La reconnaissance de la vraie culpabilité devant un autre, capable de pardonner, est libératrice et me vaccine contre les dangers toujours présents de la fausse culpabilité, du remords ou du scrupule. Reconnaître ses torts, ses fautes devant les autres, son péché devant Dieu, nous conduit non seulement à la réconciliation avec eux, mais aussi avec moi-même. Elle est un acte de liberté singulièrement apaisant qui me permet de vivre à nouveau. Je n'ai pas le pouvoir de faire que ce qui a été accompli ne l'ait pas été. Cependant, je garde un pouvoir sur mon propre passé par la manière même dont je le porte. Il peut littéralement m'empêcher de vivre. Il peut devenir une plateforme de rebondissement vers une vie nouvelle. Je sais que cet acte de la liberté, qui accepte de se reconnaître coupable pour sortir de sa culpabilité, peut apparaître inaccessible à certains dont le psychisme est grevé par de graves traumatismes. Mais la thérapie ne doit-elle pas consister alors dans le cheminement qui permettra l'accès à cet acte porteur d'une nouvelle vie? Je vous remercie.
C'était le père Bernard Cesboué qui s'exprimait sur l'impact de la décision spirituelle sur le comportement humain. On retrouve tout de suite Michaël de Saint-Chéron, philosophe, chercheur en littérature de la modernité à Paris 3, CNRS. Il évoque l'homme du XXIe siècle face à la spiritualité désorientée.
Au cours des siècles, la spiritualité a le plus souvent orienté les humains, même quand elle leur enseignait tout, sauf le dialogue avec leurs prochains ou leurs lointains de confession, d'origine, de race différente. Aujourd'hui, les tenants des religions ont compris que rien n'était possible dans le monde actuel, qui est déjà le monde de demain, sans un dialogue entre les grandes religions, les grandes spiritualités, mais aussi les philosophies, à commencer évidemment par les trois religions du livre, mais pas uniquement. Je ne voudrais pas oublier une sorte d'inventaire des grandes spiritualités du monde, l'hindouisme et le bouddhisme, qui couvre plus d'un milliard d'êtres humains, jusqu'en Chine, capitalo-communiste, où l'on sait qu'il y a de plus en plus d'adeptes des religions bouddhisme et christianisme. Ces crises de l'histoire actuelle des religions s'appellent fanatisme, radicalisation, communautarisme en expansion, suprématie du politique sur le spirituel d'une part, et des affections d'autre part en Europe, même s'il ne faut pas exagérer cette désaffection, de certaines religions dites traditionnelles au profit d'un hypercapitalisme ou de conversion à d'autres spiritualités. Alors que la plupart des grands chefs spirituels contemporains ont su féconder un dialogue sans équivalent dans l'histoire avec les croyants appartenant à d'autres spiritualités, à d'autres philosophies, à d'autres religions, on assiste paradoxalement et progressivement à un nouveau rétrécissement identitaire et communautariste, malgré l'urgence exponentielle du dialogue. Ce communautarisme est contemporain du plus grand effort jamais concrétisé par le dialogue interreligieux. Je vais tenter, à ma manière, comme l'a fait le père Cesboué, de comprendre la phrase essentielle de notre colloque: comprendre l'homme en ce qui, chez lui, transcende les divers aspects de sa personnalité. Notre temps tout entier est marqué par l'aléatoire, d'une précarité des choses et d'une incertitude radicale. C'est le temps des miettes philosophiques auxquelles Kierkegaard et Nietzsche nous rendirent attentifs. Il est d'ailleurs surprenant pour vous, mesdames et messieurs les scientifiques, que ce soit ce temps-ci, ce 20e et 21e siècle, mais surtout le 20e siècle, qui a permis et qui a vu l'apparition de ce que Heisenberg a nommé le principe d'incertitude, ce temps où Einstein découvrit les principes de relativité avant la prodigieuse révolution de la biologie moléculaire qui a bouleversé radicalement les données du vivant. Je voudrais répondre en commençant cet exposé un devoir de mémoire en évoquant devant vous, en ce lieu prestigieux, un poète, un résistant, un membre de l'Académie française, l'un des très rares membres de l'Institut à avoir pris la liberté de démissionner suite à l'élection d'un écrivain qui avait, selon lui, pactisé un temps avec la peste brune, enfin un ami. Ce poète s'appelait Pierre Emmanuel. Peut-être que certains d'entre vous l'ont connu. À sa mort en 1984, c'est un médecin et un chercheur, deux fois académicien des sciences et de l'Académie française, qui prit son fauteuil, vous le connaissez tous, Jean Emburger. Au moment où Jean Emburger a reçu son épée d'académicien des sciences à Paris en 1974, c'est un écrivain qui avait le double mérite, si je peux me permettre cette insolence, d'être non académicien et non scientifique, qui prononça le discours majeur de sa remise d'épée, je cite André Malraux. Pierre-Emmanuel avait une pensée, une dynamique, une spiritualité en perpétuelle recherche, mue par une angoisse existentielle autant que par une incertitude fondamentale. Il avait prononcé quelques mois avant sa mort, lors d'une émission radiophonique, ces paroles que je vous livre. Si nous ne vivions que de ce que nous comprenons au sens intellectuel du terme, nous serions morts. Et en fait, ceux qui ne vivent que de l'intelligence sont des morts. Ceux qui ne vivent que de ce qui va venir, en ne sachant pas ce qui va venir demain, en ne s'interrogeant même pas sur ce qui va venir, mais en l'espérant, ceux-là sont des vivants. Et le grand musicien de jazz, Ahmed Jamal, de déclarer il y a une semaine sur France Musique, « Si on cesse d'explorer l'inconnu, on est déjà mort. » Deuxième point. Tentons d'entrer un peu plus avant dans la problématique de notre petit colloque, avec cette phrase d'un très grand penseur messianique et athée du XXe siècle que je nomme Walter Benjamin, et qui a écrit dans ses Concepts d'histoire « Il n'est pas un témoignage de culture qui ne soit en même temps un témoignage de barbarie. » Cette seule parole mériterait d'être écrite en lettres d'or au fronton de toutes les universités du monde et de toutes les académies. Quand on a compris cela, on a fait probablement un pas immense pour comprendre ce qu'est l'humain. Il n'est pas une religion, il n'est pas une spiritualité, il n'est pas une culture qui ne doivent être jugées à l'aune de cette parole cardinale. Que fut depuis les origines de l'histoire les religions, les spiritualités, les philosophies? Comment comprendre que de hautes spiritualités dites révélées aient pu atteindre ces abysses? Au XXe siècle, il fallut attendre l'horreur de la Shoah pour découvrir la grandeur et la compassion et l'héroïsme de tant d'âmes chrétiennes. Longtemps, christianisme et islam partagèrent la même farouche volonté de convertir les infidèles, parmi lesquels les juifs, avouons-le, avaient précédence. À notre époque, aujourd'hui, trop de chrétiens subissent en terre d'islam des vexations, si ce n'est des persécutions intolérables. Dans le même temps, on ne peut oublier l'ostracisme dont sont victimes trop de musulmans dans nos pays occidentaux jusqu'en Inde, et sans parler de l'antisémitisme qui se porte toujours assez bien. Avec la découverte des camps nazis il y a 65 ans, le monde a subi un choc moral, philosophique, culturel, religieux qui donne le vertige. Mais qu'a-t-il finalement fait de cette conscience du mal radical dont Kant parla dès 1792. Mais si on nous demande qu'est-ce qui a changé de fondamental depuis la découverte des Kant, on est enclin à répondre rien et tout à la fois. Surtout, sans doute, la conscience d'avoir touché l'abominable, mais un abominable qui n'a aucunement permis à l'histoire d'être autrement que ce qu'elle est, c'est-à-dire de déboucher sur d'autres génocides, même si chaque génocide est unique. Deuxième point, l'un des visages magnifiques proposés aujourd'hui à la fois par une conjugaison de l'histoire d'homme et par le cinéma contemporain, l'un des magnifiques visages de la spiritualité des religions et de l'Église d'aujourd'hui nous est apporté par le film « Des hommes et des dieux » de Xavier Beauvois sur les moines cisterciens de Tibérine. Être mandataire muet d'un amour transcendant en notre monde si absurdement bavard, atteint de la pathologie de la communication pour ne rien communiquer qui touche en profondeur à l'humain, voilà un grand défi. Troisième point. Nous savons bien sûr avant et après Heidegger et Gide que c'est avec les beaux sentiments qu'on fait la mauvaise littérature et donc la mauvaise philosophie. Les sentiments les plus beaux, disait le grand philosophe allemand, n'appartiennent pas à la philosophie. Quoi de plus naturel à quelques grands esprits que de crier gare aux bons sentiments ? Encore ne faut-il pas, comme le rappelait Bérénice tout à l'heure et le père Sesboué, encore ne faut-il pas confondre bons et beaux sentiments avec l'éthique, avec la compassion, avec la bonté, la responsabilité incessible pour autrui. L'absolu contresens de l'idée sacrificielle étant de tuer prétendument au nom de Dieu. D'ailleurs, la compassion et la bonté ne sont pas des sentiments, et surtout pas de beaux sentiments, ce sont des actes qui engagent tout l'homme, tout l'être, et l'importance de plus en plus forte de l'œuvre de Lévinas dans la pensée contemporaine. Le moteur paradoxal et absolu de l'humain est le sens. Et encore une fois, je ne fais que répéter une tradition, des traditions de toutes nos civilisations. Et le père Bernard Sesboué a encore insisté il y a un instant sur cette question. Il est probable que sur cette question des religions et des spiritualités, ces spiritualités, ces écoles de vie aient beaucoup apporté aux hommes. Mais ce ne sont pas les seules écoles de pensée à avoir œuvré à ôter son dard d'inintelligibilité à l'apparent non-sens de la vie. Les religions furent longtemps captatrices de sens, mais cette captation totale leur fut toujours combattue et confisquée par les philosophies. Et ce, avec d'autant plus d'assurance que la philosophie était sûre de détenir toute la vérité et surtout la seule qui vaille. Quel danger dans cette volonté totalitaire ! Que ce soit celle des églises au sens large des spiritualités ou celle de la philosophie. Quatrième point. Dans l'un de ses tout derniers livres, publié un an avant sa mort, Hôte de passage, André Malraux se demandait si l'esprit humain n'allait pas être amené à s'occuper sérieusement, c'est-à-dire avec précision, de l'aléatoire. Sa réflexion devait alors prendre deux directions. La dichotomie entre l'aléatoire de la vie, d'une part, et d'autre part, la dimension spermatique. J'ouvre une parenthèse, j'emploie le mot spermatique dans l'acception que lui donna l'un de vos condisciples, le professeur Henri Atlan, et je referme la parenthèse. Cette dimension spermatique constitutive de la pensée de l'aléatoire. Dans un entretien contemporain d'Hôte de passage, l'écrivain développa une idée très simple selon laquelle l'improbable de la vie, l'improbable plutôt, c'est la vie. Et la certitude absolue, c'est la mort. Combien de spermatozoïdes sur les 300 000 que nous émettons finiront par aboutir à un enfant d'homme ? Si donc la vie est l'aléatoire par excellence, l'infini paradoxe n'est-elle pas qu'elle aboutisse précisément à la non-vie, à la mort. Devant cette abyssale certitude, une grande philosophe allemande, juive, émigrée aux États-Unis dès 1936, Hannah Arendt, répond que nous ne sommes pas nés pour mourir, mais pour innover. C'est là indiscutablement une grande pensée, mais allant encore plus loin, la philosophe allemande, devenue américaine, ajoute dans son livre The Human Condition le miracle qui sauve le monde, le domaine des affaires humaines, de la ruine normale, naturelle, c'est finalement le fait de la natalité dans lequel s'enracine ontologiquement la faculté d'agir. J'en arrive à ma conclusion. Ma conclusion s'arc-boute sur la tentative de formuler une dernière interrogation. Notre monde a connu ce que les théoriciens du national-socialisme nommèrent la solution finale de la question juive, un mot allemand qui se traduit par « Endlösung », formé sur la racine « Lösung », solution, et « End », la fin. La même langue allemande a forgé, il y a à peu près 15 ou 16 siècles, un autre mot qui veut dire exactement le contraire. C'est « Erlösung » qui signifie la délivrance, le salut, la rédemption. Il se trouve qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, un grand philosophe juif allemand, Franz Rosenzweig,
mort d'une terrible maladie qui aurait peut-être été sauvée par les avancées de la biologie moléculaire aujourd'hui, intitula son chef-d'œuvre en 1920 « Der Stern, der Erlösung », l'étoile de la rédemption. Aujourd'hui, nous avons tous l'impression que le monde s'éloigne de plus en plus, de rien moins que de l'idée seule de rédemption. Entendons-nous bien. Même s'il ne doit pas y en avoir, même si nulle rédemption n'est inscrite dans l'ordre des choses, dans l'ordre cosmique, dans l'ordre terrestre, le simple fait que l'homme l'ait engendré dans son cerveau où se côtoient le mal radical et l'au-delà du bien platonicien, devenu l'autrement qu'être lévinassien, n'est pas vain. Aspirer à quelque chose qui nous dépasse tous et nous transcende, non, ce n'est pas vain. Ce qui est vain et quelque peu terrifiant, et j'approche très grandement de ma fin, c'est par exemple le pouvoir de l'argent, et peut-être que vous, dans votre prochain colloque, il faudra faire intervenir des économistes. Le pouvoir de l'argent qui ne fait rire personne et qui, en un mot, nous rappelle tous que le G20 d'il y a 3 semaines s'est transformé en G2 entre la Chine et les États-Unis, où les milliards d'êtres humains qui n'étaient ni américains ni chinois n'avaient plus droit à la parole. Notre humanité se trouve très certainement en face d'une seule question insoluble, une aporie sans concession, sans recours, lui dit Kafka. Courons-nous vers l'Endlösung, la solution finale de la question humaine, avec sa surpopulation, l'augmentation injustifiable de la famine et de la pauvreté dans le monde, ou sommes-nous tous résolus à tendre vers l'Erlösung, la rédemption de l'homme, du Mensch, de la dame, du Mankind, du règne chinois, grâce à une nouvelle notion de l'humain. Et pour finir, pour ouvrir presque ce qui va suivre et votre prochain colloque, une dernière question de l'ordre économique. Comme nous le savons, l'économie est au cœur de la question et donc au cœur de la réponse. Mon dernier mot, mon tout dernier mot, sera pour Amartya Sen, premier prix Nobel d'économie de l'Inde et premier prix Nobel des pays en voie de développement. De la façon dont les pays les plus riches et ceux aussi en voie de développement répondront ou non aux principes cardinaux qu'ils posent dépend la survie de notre humanité et la réponse à la question que pose ce colloque, je veux dire de l'humanité qu'hériteront nos enfants et nos petits-enfants. Amartya Sen analyse 2 choses, la corrélation entre la liberté positive et la liberté négative de celui qui, pour nourrir sa famille, accepte un emploi qui le met en péril. La seconde chose a trait à l'approvisionnement en nourriture des populations les plus exposées à la famine. Il s'agit de la question des droits fondamentaux qu'ont les populations les plus vulnérables à s'approprier les nourritures, la nourriture qui existe, mais ne leur parvient pas du fait de la gabegie monstrueuse d'État et d'administration corrompus jusqu'à la moelle. J'ai terminé. Je rappelle que l'une des réponses possibles aux questions que je pose et qui sont souvent des questions sans réponse pourrait être celle que donna Husserl en 1935, 4 ans avant l'explosion de la Deuxième Guerre mondiale, dans cette conférence sur la culture européenne qu'il donna deux fois de suite à Vienne et à Prague en 1935, et où il en appelait à un héroïsme de la raison qui surmonte définitivement le naturalisme. Cet héroïsme de la raison est-il encore parmi nous et peut-il revenir parmi nous ? Merci.
C'était Michaël de Saint-Chéron. Il évoquait l'homme du XXIe siècle face à la spiritualité désorientée. Il s'exprimait avec le père Bertrand Sesboué dans le cadre du deuxième colloque « Regard sur l'homme contemporain », un colloque qui avait lieu en novembre 2010 à l'Institut de France. Restez à l'écoute de la retransmission de ces conférences et téléchargez les deux autres volets. Vous y retrouverez les interventions notamment de Gérard Teboul, Dominique Volton, Jean-Robert Armogat et Alain Berthoz. Et pour tout savoir sur les colloques passés et à venir, vous pouvez consulter le site www.hommecontemporain.org. Vous pourrez notamment commander les actes du colloque et vous inscrire pour de prochaines conférences. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.